je voulais pas, je pouvais pas, je voulais pas voir les autres, je voulais pas voir leur enfant aussi. Pour moi, c'était aussi un miroir de ce que jamais j'allais avoir, en fait.
Si les parents flanchent, qui va s'occuper de nos enfants? Et donc, au sein des Bobos à la ferme, on a l'ambition, en tout cas, de proposer des solutions simples et concrètes.
Les Bobos à la ferme, un projet innovant pour soutenir les parents aidants. Les Bobos à la ferme, c'est l'histoire d'Élodie et Louis, deux bobos parisiens, comme ils se définissent eux-mêmes, qui plongent dans le monde du handicap avec l'arrivée de leur premier enfant, Andrea. Leur vie bascule et en quelques mois, ils décident de quitter leur poste à responsabilité et leur vie parisienne pour s'installer dans une ferme à retaper. Dans cet épisode, Élodie et Louis racontent leur cheminement, le deuil de leur vie d'avant et la construction d'un nouvel univers. Ils nous parlent aussi et surtout du projet innovant qu'ils ont créé avec les Bobos à la ferme, un gîte pas comme les autres et un laboratoire d'initiative pour soutenir toutes les familles touchées par le handicap. Voici un peu de leur histoire. Merci à tous les deux de m'accueillir chez vous à la Madeleine sous Montreuil. Alors, vous êtes les créateurs du projet Les Bobos à la ferme, un gîte totalement adapté à l'accueil des familles touchées par le handicap et aussi un espace de répit et d'accompagnement à la parentalité pour ces familles. Ce projet, il est né de votre propre parcours de parent, puisqu'on a découvert chez votre fille Andrea une maladie rare et dégénérative. À quel moment et de quelle façon s'est passé le diagnostic pour votre fille Andrea?
Andrea pleurait énormément quand à un moment donné, je me suis autorisée à dire qu'il y avait peut-être un problème. Je suis allée frapper à la porte de beaucoup de professionnels. Et ce qu'on me renvoyait, c'était que j'étais une mère anxieuse, que j'avais une enfant qui avait un sacré caractère, le caractère de sa mère.
Et surtout, je me souviens de choses où la petite, et c'est ça qui m'avait beaucoup inquiété, elle ne s'intéressait pas trop aux choses qui l'entouraient. Et si j'avais eu un enfant avant elle, j'aurais tout de suite compris qu'il y avait, en tout cas, plus rapidement compris qu'il y avait un problème. Et des doutes, en fait, qui se sont installés sans qu'on ait envie que ça révèle quelque chose de concret. Et c'est vrai que quand on a été aux urgences et que la dame nous a dit qu'il y a un problème sur le périmètre crânien, tout de suite j'ai compris en fait. Immédiatement, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai compris que ça allait être très grave. En tout cas, on était parti sur quelque chose d'assez lourd.
Comment on annonce un diagnostic aussi lourd de conséquences à des jeunes parents? Est-ce que vous avez été accompagné à ce moment-là?
Moi, c'est vrai qu'on a eu une première neuropédiatre qui s'est occupée d'Andrea. Et je pense que immédiatement, ils savaient que ça allait être extrêmement lourd. Et ils ont mis beaucoup de temps, et peut-être beaucoup trop de temps. Et je pense que c'est aussi la difficulté du médecin à annoncer quelque chose de lourd et de grave, sans avoir une certitude à 100%, mais disons qu'ils étaient à 90%, je pense. Et ça, j'ai trouvé que c'était pénible. Moi, ça a été très pénible, parce que j'aurais voulu qu'on me dise assez immédiatement, tel qu'il le voyait cliniquement et finalement le menu général de ce qui allait se passer, au lieu de nous laisser dans un espèce de flou entre espoir et désespoir qui est extrêmement inconfortable. Notre neuropédiatre a pris la suite en fait de la première. Elle a été très cash. Et un jour, elle nous a pris dans un bureau en disant « Voilà, on a les résultats de l'IRM. On va vous dire en fait ce que ça va être. » Et ça a été le pire moment de ma vie ou l'un des pires moments de ma vie. Mais en même temps, ça a été une relative délivrance, dans le sens où le doute n'existait plus. Et c'est à partir de ce moment-là que lorsque le corps médical a pris la responsabilité de dire les choses telles qu'elles sont, que nous, on a pu aussi envisager la suite de manière un peu plus sereine et donc de faire aussi ce deuil de l'enfant parfait, ce deuil de la famille formidable, ce deuil de tous ces deuils en fait que les parents connaissent très bien.
Toi, Élodie, c'est le diagnostic, l'annonce, c'est quelque chose que tu as vécu pas de la même façon que Louis?
Alors, moi, je pense que véritablement, elle ne savait pas. Effectivement, c'est inconfortable, mais c'est ça les maladies rares. J'ai apprécié quand même cette capacité à dire « je ne sais pas », parce que je pense que c'est pas facile de dire « je ne sais pas ». Mais effectivement, je rejoins Louis quand il dit que ça nous a beaucoup aidé d'avoir le docteur Hisson qui a été un soutien indéfectible et qui a pris du temps et à l'encontre aussi des directives de l'hôpital, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui dans les hôpitaux il y a tellement plus de temps qu'on demande aux neuropédiatre d'annoncer le diagnostic d'un enfant en un quart d'heure montre en main, parce qu'à un moment donné, il y a autre chose à faire. Moi, j'ai fait de longues nuits à l'hôpital à côté d'Andrea, et elle a passé des soirées, elle venait me dire au revoir avant de partir, et on a parlé, et elle m'a accompagnée en fait dans le cheminement. Et je le dis souvent, je pense que j'en suis ici aujourd'hui, dans l'acceptation aussi du handicap de ma fille, c'est que j'ai eu des personnes, et cette neuropédiatre en tête, qui ont pris du temps avec moi pour m'accompagner, m'écouter, parfois écouter mes silences. Et c'est aussi pour ça qu'on en est là aujourd'hui.
Comment ça se passe avec le reste de l'entourage, de l'écosystème à cette période-là?
C'est très dur, mais on est très entourés par la mère de Louis et par mes parents. Beaucoup de soutien, beaucoup de la part de la famille, mais aussi des gens qui disparaissent, des gens qui ne savent pas quels mots utiliser et qui ne se disent pas qu'il n'y a pas de mots et qu'il n'y a peut-être qu'une présence et qui du coup disparaissent du paysage. Après moi, je en termes d'amitié, j'estime que voilà, on a été très soutenus par nos amis, mais malheureusement à un moment donné. La vie fait que y a l'éloignement géographique, on n'est plus présent en soirée, on n'est plus dispo pour un apéro, on n'est plus dispo pour les anniversaires, on n'est plus dispo en fait. Je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il y a une vie d'avant et une vie d'après. Il n'y a pas un pan de notre vie d'avant qui reste identique ou épargné. Il y a les personnes qui étaient là avant et notre amitié, notre relation même familiale se transforme et s'enrichit. Et il y a les gens qui étaient là avant qui ne seront plus là parce qu'ils n'étaient pas là quand on avait besoin d'eux. Et il y a aussi les nouvelles personnes qu'on rencontre. Et je pense que la richesse de ces relations n'est pas à mettre de côté, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui nous entourent, des amis qu'on ne connaissait pas avant. Et voilà, je trouve que c'est très riche aussi, les rencontres qu'on fait avec le filtre du handicap.
Je pense qu'également, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous vous renfermez et vous ne voulez pas trop discuter parce que vous avez honte. Moi, j'avais honte d'avoir une fille handicapée, j'avais honte de rentrer dans ce monde avec une fille qui allait baver, crier, avec des médicaments. J'étais plus dans la norme, j'étais plus dans la compétition générale de qui aura la plus belle famille du monde. Tout ça, c'était terminé. Et donc, je pense qu'aussi, avant de pouvoir renouer peut-être avec certains, il fallait que moi-même, je fasse aussi le deuil de ce que j'aurais souhaité peut-être être ou en tout cas montrer. Et je pense qu'avec certains amis, voilà, on s'est quitté pendant un moment et j'ai ma part de responsabilité parce que j'ai pas forcément répondu, j'ai pas forcément été présent parce que je voulais pas voir les autres, je voulais pas voir leur enfant aussi. C'était aussi une période où les amis avaient aussi des enfants qui allaient très bien, qui étaient très beaux, qui allaient faire des belles études. Donc pour moi, c'était aussi un miroir de ce que j'allais avoir en fait. Et c'était extrêmement, c'est une torture en fait. Donc il a fallu quand même quelques années pour dire oui, mais c'est comme ça, accepter et puis finalement renouer et de se sentir de nouveau à l'aise sans faire vraiment d'efforts avec les autres, avec leurs enfants qui vont bien, avec leur vie qui va bien et puis la nôtre qui est plus compliquée. Mais n'empêche que il y a un moment de solitude qu'on se crée nous-mêmes, qu'autour de nous les gens alimentent, parce que pour eux aussi c'est une facilité de dire il répond pas, je réponds plus non plus, enfin, en tout cas j'appelle plus. Et c'est là où on se dit, effectivement, on peut tomber dans une solitude assez abyssale très rapidement. En fait, ce qui est très... je trouve le risque principal de l'isolement, c'est aussi, une fois que vous avez un enfant en situation de handicap, dans les quelques mois qui vont suivre, dans l'année, les deux années qui vont suivre, c'est comment les parents vont réagir et comment ils vont pouvoir faire union, force commune, ou désunion et destruction réciproque. Et nous, avec Elodie, on a réussi à tenir en fait le truc. Mais je trouve que c'est l'un des premiers facteurs peut-être d'isolement. C'est déjà l'isolement dans le couple de l'un et l'autre qui réagissent comme le deuil d'un enfant, le deuil de je sais pas. Voilà. Comment on fait pour se retrouver? Pour moi, c'était la priorité. C'était tant pas de refaire autour de moi un collectif d'amis soutenants. C'était déjà de se dire, déjà notre couple, comment on fait pour le maintenir, quoi. Et nous, on a fait un choix, et je pense que c'est ce choix-là qui a fait qu'on a réussi à rester ensemble. C'est qu'on a fait le choix, tous les deux, d'arrêter de travailler pour s'occuper de notre enfant. et de débrancher chacun de notre côté notre carrière professionnelle qui était quand même un élément central de notre vie. Si l'un de nous avait continué à bosser, on ne serait pas devant vous aujourd'hui à discuter. On serait séparés depuis très longtemps.
Moi, j'ai demandé à Louis d'arrêter de travailler quand on était à l'hôpital. Enfin, je ne porte pas ça seul. Mais il y a quand même un fossé entre le quotidien du père et de la mère quand papa part travailler et maman reste à la maison. Et le soir, papa dit « bah oui, mais je suis crevée de ma journée ». Et maman dit « mais attends, mais tu crois que j'ai fait quoi en fait toute la journée ?» Et ça, je pense que c'est explosif dans un couple. Et c'est vrai que de ne pas vivre le même quotidien quand ça dure pendant des années, j'ai du mal à... Moi, personnellement, j'aurais pas réussi. Ça, c'est certain. Donc, je parle pas pour les autres, mais moi, j'aurais pas réussi. Et je pense que il faut aussi savoir le dire, parce que cette image de mère sacrificielle, de mère parfaite, de on est la mère donc on doit porter, ça a un petit peu vécu quand même. On s'est posé la question de se séparer aussi, parce que je pense qu'il faut pas être culpabilisant avec les parents. Nous, à un moment donné, on s'est dit peut-être que de se séparer, on pourrait garder Andréa en alternance et puis avoir conservé une normalité une semaine sur deux. Et ouais, je pense que c'est faut le dire que ces questions se sont posées parce que c'est tellement difficile.
Peut-être un petit peu moins d'un an après le diagnostic, vous faites le choix de quitter, enfin. Le choix relatif, mais vous prenez la décision de quitter vos emplois respectifs et de venir vous installer ici à la Madeleine, donc un petit village dans le Pas-de-Calais. Comment on prend cette décision ?
Je crois que ça s'est joué dans la chambre Camélia du service neuropédiatrique de Robert Debré. Une petite chambre qui devait faire 7-8 mètres carrés avec Andrea, nous, avec notre ordinateur, nos ordinateurs, en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire de la suite ?» Et notre capacité, et je pense que notre force a été de très rapidement réagir et de dire la vie d'avant, elle est foutue. Il faut que nous trouvions un autre sens et un autre projet dans le contexte qui était celui qui était posé. On savait déjà que pour s'occuper d'Andrea, il fallait au moins être deux. Et donc, il fallait qu'on quitte nos boulots. Sans travail à Paris, on ne pouvait pas rester à Paris hein, parce que pas d'argent, pas de loyer. Comme j'étais originaire du Pas-de-Calais, qu'on avait souvent... était dans le Pas-de-Calais, voir ma mère particulièrement et nos amis là-bas. On s'est dit, tiens, on va essayer de voir dans le Pas-de-Calais si on peut trouver un lieu où on pourrait peut-être faire des gîtes. On s'est mis dans un mode survie complet. Et c'était du jour le jour. On réfléchit, mais pas trop. Et on n'écoute pas trop non plus les gens. On s'écoute, nous. C'était déjà pas mal. On se met à peu près d'accord, nous. L'annonce du handicap, c'était en janvier. À partir de mai, on était devant les ordi à regarder où on allait aller. Donc, ça a été extrêmement vite. Et on a trouvé cette ferme à haut potentiel à la Madeleine sous Montreuil. De manière rétrospective, c'était la ferme était dans le même état que nous, totalement délabrée, totalement détruite, totalement à rénover. Et c'est assez marrant ce parallèle de nous choisissons un lieu à l'image de ce que nous sommes à ce moment-là et nous allons le reconstruire à la même mesure que nous devons nous reconstruire autour de cette nouvelle vie en fait. En fait, il faut imaginer ce que c'était au départ. Il y a quelques personnes qui connaissaient cette ferme au départ qui étaient vraiment... Il fallait être con pour acheter un truc pareil. Mais je pense que pour nous, ça a été notre bouée de survie. Il nous fallait un projet, quel qu'il soit, en fait. Je pense qu'on aurait pu faire n'importe quoi, on l'aurait fait. Avec toute la rage du désespoir. Et c'est cette ferme qui a bénéficié de cette énergie. Et finalement, je pense que le pari a été gagné, quoi.
Donc vous vous retrouvez dans une ferme délabrée, enfin en ruine, avec une ferme à réparer et trois humains aussi accessoirement à réparer un peu. Le projet initialement, c'était quoi du coup dans ce lieu ?
Andréa, on nous a annoncé un pronostic vital engagé très rapidement. Et donc, de venir ici, c'était de pouvoir rester auprès d'elle le plus longtemps possible. Et donc de se dire que il fallait qu'on trouve un travail à domicile et donc et on voulait faire des gîtes et des chambres d'hôtes puisqu'on se disait avec nos compétences métiers on va faire ça. L'idée c'était d'avoir aussi une salle polyvalente où on pouvait proposer des séminaires, des activités autour du bien-être.
Au départ, vous aviez pas envie d'être trop en contact avec des personnes concernées par le handicap ?
Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. pour moi, c'était un monde anxiogène, de larmes, de désespoir, très noir. Et j'avais complètement tort. Et c'est quand je me suis mise à parler avec d'autres parents, d'autres aidants, d'autres personnes qui ont été confrontées à la maladie ou au handicap, où j'ai découvert des personnes avec un humour, parce que quand même, c'est ce qui nous aide à tenir au quotidien. Alors, noir, mais moi j'adore. une force de vie et de résilience que je trouvais chez peu d'autres personnes. Je trouve que la maladie et le handicap nous fait creuser, gratter en nous des forces et qu'on ne se doute pas avoir en nous. On ne sait pas qu'on a ça en nous tant qu'on n'est pas au bord du précipice ou à pousser au fond du trou. Et c'est à travers les rencontres et les échanges avec d'autres familles que les bobos à la ferme s'est aussi construit. Les bobos à la ferme ont bénéficié d'une émulation sur les réseaux sociaux et du coup il y a beaucoup de familles qui m'envoyaient des messages. J'ai été effarée de voir en fait tout ce que les parents pouvaient partager d'intime sur ces groupes. Et je me disais, mais comment ça termine là-dessus? Quel est le cheminement pour que finalement on arrive à partager des choses aussi personnelles sur un réseau social comme Facebook? Je me dis, mais à quel niveau d'isolement et de solitude sont les gens? Et là, je me suis dit, ouais, faudrait peut-être créer le café du village, quoi, où les personnes sortent de chez elles pour pouvoir parler en vrai.
Du coup, le projet, on en arrive justement à l'essence même du projet des bobos à la ferme. Vous êtes passé donc d'un gîte ordinaire à un projet de gîte un peu plus extraordinaire. Comment ça s'est construit et aujourd'hui? C'est quoi le projet global des bobos à la ferme avec les différentes facettes?
C'était complètement fou. Il faut quand même se remettre dans un truc où on est parti de Paris le 31 juillet 2016. On a fait 6 déménagements pour arriver ici, dans notre maison, le 5 avril 2018. Il nous est arrivé, on va pas rentrer dans les détails, mais quand même des situations complètement dingues où on avait... nos affaires réparties dans des cartons chez plein de gens. Andrea dans mes cartons. On a quand même fini dans un mobilhome dans le camping d'à côté en plein hiver en 2018. Et en parallèle, Louis partait le matin, faisait les travaux. On pensait pas créer un lieu d'innovation sociale. On a cherché sur Internet à aller en vacances dans un lieu comme ça et on a été très étonnés de voir que ça n'existait pas tellement ça nous paraissait évident.
Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment fixé comme objectif d'orienter notre ferme vers cet accueil des gens qui nous ressemblent et qui ont cette même envie de pouvoir vivre un moment, touristique, un moment de répit dans un lieu ordinaire et de donner la possibilité, le choix à des familles comme nous de pouvoir venir finalement dans des gîtes où on allait avant, dans notre vie d'avant. On est passé des bourgeois bohèmes qu'on voulait de manière assez ironique accueillir dans nos gîtes à la bobologie et donc à nos bobos qu'on voulait déjà réparer dans cette ferme et voir réparer les bobos des autres si c'était possible. Et comme on le dit souvent, il fallait absolument qu'on fasse du beau. Et ça, c'était essentiel parce que notre vie, finalement, elle était tombée dans le moins beau. Et notre quotidien était finalement entouré de lieux, de services qui ne représentaient pas quelque chose de très esthétique, selon nous, et qui était finalement le reflet aussi d'un état d'esprit assez déprimé. Donc, il fallait transformer cette ferme en quelque chose de beau et d'adapté et faire en sorte que les murs qui accueillent... les bobos des uns et les bobos des autres soient le plus chaleureux et les plus esthétiques et beaux.
À travers ce projet, on se fait aussi les ambassadeurs de la vie de notre fille. On considère beaucoup les personnes polyhandicapées comme inutiles, je pense. Quand on voit ces personnes dans des fauteuils qui bougent pas, qui font des mimiques bizarres, qui sont alimentées par l'estomac, enfin, il y a une incompréhension sur qu'est-ce qui nous apporte en fait, qu'est-ce qui se passe. Et je pense que ce projet, c'est aussi rendre hommage à Andrea en montrant tout ce qu'elle peut apporter à la société à travers, malgré son handicap. Elle irradie, elle aimante des belles énergies et tout ce qui se passe aujourd'hui se passe autour d'elle, parce que mais littéralement et physiquement autour d'elle, puisque la maison est au milieu du site et tout ce qui s'y passe, elle en bénéficie à un moment donné.
Et ouais, elle est capable dans son fauteuil roulant. Elle parle pas, elle parle juste avec les yeux. Ouais, de créer un moment d'amour et de fusion, de pureté qu'on retrouve très peu dans le monde en général. Et ça, la société, elle devrait mieux le concevoir, que c'est pas que des enfants qui ont des comportements un peu étranges ou qui bavent ou qui crient. Non, c'est des enfants, des êtres humains qui vous apportent et qui peuvent vous apporter un amour infini. Je pense aussi que ce projet, c'était aussi de démontrer à la société et de manière générale à nous-mêmes et à la société qu'on pouvait encore apporter quelque chose, qu'on n'était pas obligé de rester dans le garage dans lequel on nous a mis. Parce qu'on nous a mis quand même dans un garage, hein, en nous disant, bah, monsieur, madame, c'est à vous maintenant d'aider votre enfant jusqu'à ce que mort s'en suive, démerdez-vous. Et je pense que projet, c'est une révolte aussi, hein, de dire, non, on va pas s'arrêter là, en fait. On veut pas être dans cette case qu'on nous a pointée du doigt et vers laquelle finalement tout le monde nous dit d'aller, fermez-la, faites votre job d'aidant, on vous donne quelques petites choses pour essayer un peu de répit, un peu de bazar, un peu de trucs, pour essayer de tenir, mais votre objectif... Non, on va créer un projet, on va même créer ce que les gens appellent une innovation. On va le porter en tant que parent d'un enfant polyhandicapé, sans trop de soutien, sans trop de sous, et on va démontrer à d'autres parents que c'est possible.
Alors c'est effectivement un projet qui peut vraiment susciter des envies et des vocations chez d'autres parents. Vous avez réussi à créer ce lieu qui est à la fois complètement adapté au handicap et en même temps, comme tu disais, beau. Qui vient dans ces gîtes? Qu'est-ce que les gens viennent chercher?
Alors, les bobos à la ferme, on considère que c'est le premier tiers-lieu créé par, pour et avec des aidants, qui propose des séjours de répit en milieu ordinaire, sur une organisation sur mesure, en fonction des besoins des familles. Et on propose aussi un espace ressource parentalité et handicap sur le territoire, avec donc c'est un lieu de soutien, d'entraide, d'écoute qui est animé par une conseillère en parentalité différente qui est elle-même mère d'un enfant autiste. C'est un lieu où les parents aidants peuvent poser leur bagage, quel qu'il soit. C'est écrit dans la loi que tout le monde a droit à 5 semaines de congés payés par an. Donc vous n'êtes pas des citoyens de seconde zone, vous avez aussi droit à ça. Si les parents flanchent, qui va s'occuper de nos enfants? Si les aidants craquent, tout s'écroule. On milite pour que le répit soit reconnu comme un soin. Et donc, au sein des bobos à la ferme, on a l'ambition, en tout cas, de proposer des solutions simples et concrètes à chaque aidant, que ce soit en séjour ou à chaque parent aidant sur le territoire. Ce qui est beau aussi, je pense, c'est de se dire qu'il y a des familles qui ont besoin de rester seules dans leur cocon familial et de ne croiser personne en fonction de où elles en sont dans leur histoire et de leurs besoins du moment. Et c'est possible. Et d'autre part, il y a quand même des familles qui ont envie de créer du lien. Et ça, c'est beau parce que ça se passe, ça se produit. Les gîtes Nina, Isée et Abel sont dans la cour intérieure de la ferme et c'est aussi propice au partage. Alors, il y a des tables extérieures qui se transforment, il y a des apéros qui s'organisent. Ils sont hyper sympas, ils nous invitent régulièrement. Il y a des liens qui se créent entre les personnes touchées par différentes pathologies et il y a aussi des liens qui se créent entre les fratries. Nous, on a créé le contenant et les personnes y créent leur contenu, leurs souvenirs. Et je pense que c'est important aussi de dire que si on a réussi à le faire, c'est que c'est possible.
C'est quoi les retours que vous avez de la part des familles qui viennent? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
On a 25% des familles, des familles qui sont venues en 2023, qui étaient déjà venues à un séjour précédent. Donc on a voilà un quart des familles qui reviennent. Pour nous, c'est le plus beau témoignage. Deux témoignages qui me viennent en tête. L'un d'une mère en situation de handicap en fauteuil qui est venue en séjour avec sa fille et son mari. Et quand elle est partie, elle m'a dit, pendant le week-end, j'ai pas eu l'impression d'être handicapée. J'ai pas eu besoin de demander de l'aide à ma fille. C'est sa fille à 4 ans. On a des témoignages incroyables. En fait, les gens, dans les livres d'or, ils nous racontent des trucs. C'est trop beau. Il y a des témoignages envers nous, envers Andrea. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui remercient Andrea d'exister, d'avoir fait que ce lieu existe. Et ça, moi, ça me bouleverse à chaque fois quand je lis ça dans les livres d'or.
Vous imaginiez que les choses pourraient prendre cette tournure quand vous étiez justement dans le couloir de l'hôpital?
Moi, j'ai pas forcément eu du doute sur le fait qu'on allait pouvoir rénover, créer ces gîtes. On était parti pour, et effectivement, il y a eu cette communauté, cet intérêt collectif en fait qui s'est accolé au projet, à notre projet familial en fait. Ce projet familial de recherche de sens, de survie, de résilience, de rétablissement est devenu un projet collectif d'intérêt général. Et après, c'est le fonctionnement sur le long terme. Et ça reste un doute. Aujourd'hui, oui, on existe, mais on est aussi extrêmement fragile parce qu'on ne remplit pas les bonnes cases juridiques, parce qu'on n'est pas dans le code de l'action sociale, parce qu'on n'est pas un ESMS, parce qu'on ne rentre pas finalement dans le pédigré, dans le canal classique qui a été celui depuis 50 ans mené par l'État et tous les opérateurs qui sont encore existants. Aujourd'hui, nous, on a réussi le pari qu'on s'était donné en 2016 et on en est content. Nous, on a apporté notre pierre un peu à l'édifice général, une petite pierre, mais cette petite pierre, si on veut qu'il y en ait d'autres, il va falloir qu'il y ait un effort substantiel de par l'État, les collectivités et les acteurs aujourd'hui qui portent un peu ce genre de service. Et je suis pas certain véritablement qu'on aille dans cette direction-là, en tout cas des retours que nous, on peut avoir dans notre petit territoire.
Il y a une réserve forte de la part des acteurs traditionnels. Enfin, je sais pas si tu veux développer là-dessus.
Non, mais si, tout à fait. Moi, je j'ai aucun problème avec ça. Moi, je viens du médico-social, donc je sais comment le médico-social fonctionne. Je veux dire, pour moi, de manière très claire, le médico-social, ce sont des acteurs qui répondent à une offre de services demandée par l'État ou les collectivités, qui sont en concurrence les unes par rapport aux autres pour offrir ce type de service à tel ou tel public. Ce sont aussi des marchés, très clair. Hein. Les gens vont dire, ah ben non, vous comprenez, on n'est pas. Mais si, ce sont à un moment donné des fonds publics qui sont dédiés à des publics particuliers. Et effectivement, ce travail est confié à des acteurs associatifs particulièrement qui ont des intérêts à ce que les choses bougent ou ne bougent pas. Dans notre situation, lorsqu'on était que Élodie et Louis, parents d'Andrea, qui faisaient 2-3 petits bidules, machin... voilà, tout le monde était plutôt sympa et conciliant et tout le monde nous disait c'est formidable. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été jusqu'au bout de ce qu'on a pu, du projet tel qu'on voulait le mener et avoir l'ambition même de vouloir le dupliquer ailleurs, ça pose problème. Ça pose problème parce que on est en dehors des canevas traditionnels et beaucoup de parents et aussi beaucoup de collectivités disent oui, effectivement, c'est la solution, il faut aller dans ce sens et on a plein de financeurs qui nous soutiennent. Et en même temps, de l'autre côté, on a aussi des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui veulent pas que ça se développe, qui veulent que ça se développe, mais sous les canevas traditionnels des ESMS, traditionnellement. Et ça, forcément, ce sera un frein extrêmement important. Et ce projet, les bobos à la ferme, pourra... se dupliquer ailleurs ou pas.
On espère vraiment en tout cas qu'il pourra se dupliquer, mais c'est intéressant d'avoir aussi cet éclairage-là. Sur un plan personnel, qu'est-ce que vous avez appris sur vous à l'issue de ce premier parcours de 8 ans ?
Le handicap, dans une certaine façon, va révéler l'essentiel. Andrea m'a permis de retrouver, ou en tout cas de trouver, ce qui était important et ce qu'il était moins. Et de faire le tri, en fait, de mes petits embêtements ou emmerdements d'avant. Et en fait, là, j'ai 8 années de ma vie, alors, qui ont été difficiles. Mais j'ai créé quelque chose que jamais j'aurais pu créer si André n'avait pas été là. Jamais je me serais autant révélé dans toutes les compétences nécessaires à pouvoir mener un projet comme celui-là. Et je trouve que c'est un super cadeau que ma fille m'a donné. Je crois qu'il y a un truc, on est capable de tout en fait. Et c'est ce qu'il faut dire aux gens, quelle que soit la difficulté auquel vous êtes confronté, vous êtes capable de vous relever en fait. Et ça c'est important de le dire parce que moi j'étais dans des situations psychologiques extrêmement difficiles. Et finalement, on a réussi. Et c'est possible. Et je vois beaucoup de papas ou beaucoup de mamans, ou il y en aura plein d'autres qui auront cette annonce, qui auront ce grand désespoir, cet abîme. Mais comment faire? Comment on va faire? Et croyez bien que ce sera possible. Demain sera meilleur.
Je ne sais pas si vous arrivez avec ce recul à vous dire au terme de ces 8 ans, il y a ça qui a vraiment été déterminant pour qu'on prenne ce chemin-là et que on arrive à quelque chose, en tout cas, qui a du sens, même si c'est pas facile.
Je pense qu'il faut se recréer un monde. Je pense qu'on a besoin de se sentir utile socialement. Et d'autre part, le lien social, hein, je suis désolée, mais d'avoir des gens qui passent à la maison, de pouvoir discuter avec d'autres familles, mais aussi avec d'autres personnes et d'autres choses. On ne peut pas comprendre ce que c'est le quotidien quand on ne vit pas. Par contre, passer prendre un café, c'est possible. Il y a beaucoup trop de parents aidants, notamment, qui se disent qu'ils ne veulent pas déranger, que de toute façon, les gens ne peuvent pas comprendre, donc ils n'expliquent pas. Et moi, je sais que j'ai toujours fait beaucoup de pédagogie avec mes amis en disant « en fait, c'est comme ça ». Si tu sais pas s'il faut dire bonjour à Andrea quand tu rentres dans une pièce parce qu'elle répond pas, si, tu lui dis bonjour parce que c'est une personne. Et même si elle te répond pas, on n'est pas sûr de si elle le sent, mais dans le doute, tu dis bonjour, quoi.
Il faut absolument que les parents puissent continuer à bosser. C'est obligatoire pour moi. Parce que beaucoup de choses vont découler de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État n'organise pas suffisamment bien les choses pour qu'on puisse continuer à bosser. Ça, c'est un scandale, une injustice incroyable. Que moi, à 35 ans, on m'ait dit, maintenant, vous arrêtez de bosser, vous allez vous occuper de votre fille, je trouve ça scandaleux. Pour moi, c'est une lutte que les parents d'enfants différents doivent mener, et ils n'ont pas le temps de le faire, et c'est bien dommage. Mais une lutte du quotidien, en prenant leurs élus yeux dans les yeux, en disant « Mais pourquoi mon enfant ne peut pas aller en accueil de loisirs? Pourquoi il n'y a pas d'assistante maternelle? Pourquoi il n'y a pas de crèche? Pourquoi à l'école, ça va pas bien? Pourquoi les établissements, il n'y a pas assez de professionnels? Ils sont pas assez payés? Pourquoi ?» Et c'est vrai que, comme l'a dit Élodie, le pire, c'est quand vous n'appartenez à plus rien. Et sinon, dans 5 ans, comme on se voit, fatigué.
Pas vieux, mais jeune encore.
Non, jeune et vaillant, toujours à essayer de convaincre. C'est vraiment de donner la possibilité à d'autres parents, à d'autres aidants, d'avoir cette possibilité de créer d'autres bobos à la ferme, mais avec peut-être plus de facilité que ce qu'on a pu nous vivre, c'est-à-dire avec un cadre juridique, un cadre financier, et de leur permettre finalement de les accompagner dans la construction de ces petits lieux, qui doivent rester des petits lieux. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire aussi par des personnes qui sont directement concernées. Ça fait partie de l'ADN du projet. Et on espère dans 5 ans voir 5, 10 autres bobos à la ferme peut-être advenir sur une stratégie, une philosophie un peu identique à celle qu'on a pu mener ici à la Madeleine sous Montreuil, quoi.
Je ne sais pas comment ça se terminera, si ça se terminera, mais en tout cas, on aura vécu une belle aventure humaine.
Merci beaucoup à tous les deux. Bravo infiniment.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez bien sûr le lien vers le site des Bobos à la ferme dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du podcast, le lien est également dans les notes. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est un très bon moyen de soutenir le podcast. Merci et à très vite.